La catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon a relancé en France et dans le monde entier le débat sur le nucléaire. À côté des critiques anti-nucléaires comme celle du réseau Sortir du nucléaire ou de l'association Virage Énergie, il existe une critique plus radicale, critique sociale, qui appelle à une sortie immédiate du nucléaire. On a rencontré à ce sujet Arnaud Michon, auteur du livre Le sens du vent et membre de la coordination contre la société nucléaire. On entendra aussi Théodore, militant anti-nucléaire.
Ce qu'on a pu noter, c'est dans un premier temps, sous le coup de la catastrophe, une sorte de volonté de transparence de la part des politiques, du pouvoir d'État, quoi, en gros, pour ne pas voir se répéter le fiasco de Tchernobyl. En gros, on avait tout nié jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit impossible de nier, quoi. Assez vite, cependant, la catastrophe devenant réellement une catastrophe et les choses empirant de jour en jour, on voit tout de même se réitérer la bonne vieille politique du secret sur les doses exactes de rejet secret, qui dépend en grande partie aussi du peu d'informations que livre et pour les mêmes raisons le Japon, quoi. Dans un premier temps, le gouvernement s'est déclaré prêt à débattre du nucléaire tout en excluant par avance toute sortie. Ça, c'est dans les premiers jours de la catastrophe. Aujourd'hui, par exemple, l'autorité de sûreté nucléaire commence à envisager de faire un moratoire sur l'EPR. Je pense qu'ils sont un peu secoués, quoi. Et donc, alors, est-ce que c'est de la propagande? Certainement en partie. Parce que moi, je persiste à penser que, de toute façon, le nucléaire va continuer à peu près sur le même rythme en France. Mais bon, on voit qu'il y a une inquiétude. Donc non seulement l'annonce de faire passer aux réacteurs des tests de résistance, c'est d'ailleurs assez cocasse, quoi. Comme si jusqu'à présent, les centrales et les réacteurs n'étaient pas si sûrs que ça. Et puis donc, voilà, tout ça étant assez confus et assez... assez réservé, mais enfin, l'idée que l'EPR, bon, on y réfléchirait peut-être à deux fois, quoi. Donc, alors, l'EPR, il y en a un actuellement en construction à Flamanville. Donc, ce que dit Lacoste de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est que il faudrait à tout le moins tenir compte de ce qui, des désagréments, pour employer un euphémisme, que connaissent les réacteurs japonais. Il faudrait en tenir compte pour améliorer la sécurité de l'EPR, alors qu'il était soi-disant extrêmement sûr, et ce qui en faisait d'ailleurs un réacteur trop cher et donc inapte à l'exportation. Et le deuxième EPR, donc, qui n'est pas tout à fait acté, enfin qui était annoncé à Penly, donc toujours sur la même côte normande, lui serait quasiment provisoirement écarté, quoi. Voilà, enfin bon, ça c'est des annonces journalistiques. Est-ce que c'est de l'effet d'annonce pour calmer la population, ou est-ce que ça correspond à déjà une volonté claire? L'avenir proche le dira, mais je pense que de toute façon, il faut pas imaginer que le pouvoir est omniscient, et c'est exactement ce qu'il fait et ce qu'il pense à l'heure actuelle, quoi.
Il développe une pensée probabiliste, quoi, c'est-à-dire... Enfin, la probabilité qu'il y ait un séisme, la probabilité qu'il y ait l'eau qui monte, etc. Enfin, plus on va dans cette direction, et plus on se rend compte que, de toute façon, les probabilités qu'il y ait un incident ou un accident nucléaire, elles sont incalculables, quoi. Enfin, à Gravelines, la centrale a chauffé à cause d'algues qui ont obstrué la sortie de l'eau de refroidissement, etc. Enfin, je sais pas, les probabilités qu'il y ait... Enfin, c'est incalculable, les probabilités d'un accident, c'est... Tous les ans, il y a des incidents, nucléaires.
À chaque fois, c'est des surprises, même sur les incidents, effectivement, comme tu me disais, pour Gravelines, quoi. Les bureaucrates du nucléaire, il ne faut pas penser que ces gens-là maîtrisent la situation, quoi. À chaque fois, l'accident nucléaire est une surprise. Il n'y vient pas de là où on l'attendait. Les systèmes techniques qu'on avait pensé... mettre en œuvre pour juguler un certain nombre de problèmes, imaginer à l'avance, ces systèmes techniques ne marchent pas ou ne sont pas à même de régler les problèmes inattendus. Tout ça fait du nucléaire la technologie la plus, non seulement la plus dangereuse, mais la moins à la mesure de l'homme, quoi. Enfin,
Areva.
Arguments des pro-nucléaires, bon, on va laisser de côté l'argument sur le changement climatique, hein, que c'est une industrie qui ne produit pas de CO2, hein, un argument somme toute assez fallacieux. Mais un des arguments aussi qui est récurrent, c'est que bon, on ne peut pas faire autrement, qu'il n'y a pas de solution énergétique adaptée à la France. Donc est-ce qu'on peut avoir peut-être un point de vue là-dessus? Puis comment vous voyez les scénarios qui sont élaborés par exemple des collectifs comme Virage Énergie, c'est ça?
Mirage énergie, tu veux dire. De fait, si on considère les choses techniquement, oui, il n'y a pas de possibilité de sortie du nucléaire à brève échéance. Quoi. Enfin, la France est faite pour le nucléaire. Quoi. Voilà. Elle est conçue techniquement pour le nucléaire. Dans mon bouquin, j'ai développé la thèse que les énergies renouvelables ne servent qu'à accompagner la poursuite, voire la relance du nucléaire.
Est-ce que techniquement, c'est pas possible de sortir du nucléaire? Je sais pas. En tout cas, si c'est possible, c'est affreux, quoi. Apparemment, tu disais dans ton bouquin qu'il fallait 100 000 éoliennes pour remplacer le parc nucléaire français, quoi. Enfin, si on est prêt à planter 100 000 éoliennes, que ce soit en offshore, en pleine mer ou sur les terres, enfin, il faut être prêt à coloniser je sais pas combien de mètres carrés, de kilomètres carrés de territoire et de tout transformer en... Enfin, un paysage de zone industrielle, quoi. Et jusque dans la mer, quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, il y a un projet de ferme, ils appellent ça, c'est joli, la ferme offshore, de ferme éolienne au large de la côte Picarde, quoi, qui est d'ailleurs une côte plutôt jolie, quoi. S'imaginer que jusque dans la mer, ils sont prêts à aller mettre des éoliennes de 100 mètres de haut ou 150 mètres de haut, je sais pas, qui clignotent la nuit, etc. Ils sont vraiment prêts à tout pour nous vendre de l'énergie, quoi. Nous imposer même de l'énergie, parce que c'est pas nous vraiment qui avons réclamé une telle production énergétique, quoi.
Oui, alors là, disons que les partisans des énergies renouvelables te rétorqueraient qu'il ne s'agit pas uniquement de planter des éoliennes, mais de développer non seulement des énergies, d'autres énergies, mais aussi surtout de lancer des grandes politiques de sobriété et d'efficacité énergétique. Il s'agirait tout de même de diminuer la consommation. Mais tout en, ça c'est, il faut lire les publications concernées, tout en conservant pour l'essentiel notre mode de vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de se débarrasser des prothèses technologiques inutiles et asservissantes. C'est en gros mettre un panneau solaire sur sa fenêtre pour recharger son lecteur MP3. Quoi. Enfin, on en est à peu près là. Enfin, moi, ce que j'ai envie de leur répondre, c'est que de toute façon, le problème social ne se résume pas à la consommation d'énergie, quoi. Le problème social est au-delà de ça. C'est-à-dire que on vit dans une société de merde. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Donc il s'agit vraiment de bouleverser radicalement les conditions existantes, quoi. Et c'est qu'à ce compte-là qu'on pourrait imaginer, à ce moment-là, trouver un système énergétique à notre mesure qui nous permettrait de satisfaire nos besoins, quoi. Mais il faut forcément en passer par une révolution. Pour revenir sur une petite ambiguïté que j'ai pu laisser passer tout à l'heure, techniquement, on peut sortir. Il s'agit simplement de décharger les barres de combustible, de les mettre dans l'eau et d'attendre quelques centaines d'années que ça se passe, quoi. Donc on peut arrêter. On peut arrêter le nucléaire quasiment du jour au lendemain. Sauf que dans les conditions existantes, c'est le blackout, c'est le chaos, quoi. C'est bien pour ça qu'il faut, à mon avis préalablement, qu'un mouvement social se saisisse de cette question et décide collectivement qu'on arrête le nucléaire, oui, et le plus rapidement possible. Si, comme on le souhaite, un mouvement d'émancipation se constituer et arrêter le nucléaire, on pourrait arrêter la production d'électricité nucléaire, mais les déchets nous resteraient sur les bras. Ça, c'est... Et pour des centaines, des milliers, des millions d'années. Donc c'est tout le drame, en fait. C'est-à-dire que non seulement on doit conserver un certain nombre de compétences, donc de spécialisations, pour s'occuper de ces déchets, mais toute société meilleure aurait indéfiniment ce legs particulièrement accablant de déchets nucléaires. Donc 60 ans de production électronucléaire aura produit des déchets éternels. Au-delà du risque d'accident, il faut aussi bien noter que les contaminations sont absolument quotidiennes. C'est-à-dire qu'il y a des seuils de doses qui sont fixés généralement par des nucléaristes, qui établissent ces doses sur une base de risque acceptable, c'est-à-dire de risque de cancer acceptable, mais que ce soit les travailleurs du nucléaire eux-mêmes qui sont aux premières loges, qui ont d'ailleurs un seuil de tolérance, enfin, ils n'ont pas de seuil de tolérance supérieur, malheureusement, c'est tout le drame, mais enfin, on considère que les travailleurs du nucléaire peuvent être plus contaminés que les autres, légalement, alors que, bon, enfin, ce sont des humains comme nous. Mais donc au-delà de la contamination des travailleurs, il y a des rejets dans l'environnement tous les jours. Or, les faibles doses qui s'accumulent ont un effet sanitaire contesté, évidemment, par ceux qui ont intérêt à le contester, mais qui est patent, quoi.
La catastrophe de Fukushima ne doit pas nous faire oublier que le nucléaire, c'est la catastrophe permanente, quoi. Enfin, on a parlé des travailleurs, on peut parler de l'extraction d'uranium au Niger, qui est en train de bousiller l'environnement. Enfin, je ne sais pas sur combien de kilomètres carrés, combien de nappes phréatiques, combien de rivières. Enfin, c'est constant. Et puis, on a par exemple en France l'usine de retraitement, entre guillemets, de La Hague, qui rejette en permanence des radionucléides dans l'océan, quoi. Et même par voie de cheminée, etc. Enfin, y a eu un film il n'y a pas longtemps, là, je ne me souviens plus, c'était Rien à signaler, je crois, RAS, qui montrait que La Hague rejetait par ses cheminées des radionucléides qu'on retrouvait jusqu'en Suisse, quoi. Enfin, et ça, c'est légalement, c'est autorisé, quoi.
Quelqu'un d'aussi modéré que Yannick Rousselet, donc de Greenpeace, parlait de La Hague comme de situation accidentelle permanente mais légale. Et donc, je mentionnais dans mon livre que selon la CRIRAD, La Hague dispersait dans l'air en une seule année plus de krypton 85 radioactif, donc un radionucléide en particulier, donc plus de krypton que tous les essais nucléaires atmosphériques effectués dans le monde depuis le début de l'ère atomique. À savoir qu'il y en a, il y a eu 543 essais atmosphériques depuis l'ère nucléaire. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête.
Dans la région Nord-Pas-de-Calais, quelques collectifs anti-nucléaires existaient déjà. D'autres commencent à pointer le bout de leur nez, c'est le cas notamment à Arras. Mais globalement, le mouvement anti-nucléaire est assez faible. On a demandé à Théodore ce qui, selon lui, expliquait cette faiblesse.
Historiquement, on a aussi une région fortement industrialisée avec des gens qui ont bossé dans les mines, etc. Enfin, quand il y a une centrale à Gravelines, à l'époque, en 1980, il y a encore des gens qui mouraient en crachant leur poumon du fait d'être descendu à la mine, quoi. Donc pour eux, le nucléaire, ça paraissait vraiment propre, quoi. Et en plus de ça, il y a une fatalité, quoi. Il y a un fatalisme dans le Nord au travail et à l'industrie et à la saleté. Enfin, je vois à Lille, tout le territoire de la métropole est plombé, quoi. Partout, on gratte et il y a du plomb, quoi, c'est ça que je veux dire. Et en plus de ça, politiquement, on est quand même une région où le Parti communiste et le Parti socialiste sont très puissants, ont été très puissants, on va dire, et le sont toujours, de toute façon, et sont pro-nucléaires, sont même des ardents défenseurs du nucléaire pour ce qui est du Parti communiste, qui est à la pointe du nucléaire, quoi, dès le début, quoi. Enfin, le nucléaire s'est construit en France avec les communistes et les gaullistes, quoi. Enfin, ce qui peut expliquer peut-être ce faible mouvement anti-nucléaire dans le Nord, quoi.
Théodore, militant anti-nucléaire, on a entendu aussi dans ce sujet Arnaud Michon, membre de la coordination contre la société nucléaire. Il est l'auteur du livre « Le sens du vent, note sur la nucléarisation de la France » et c'est paru à l'Encyclopédie des nuisances.